attention, pas beaucoup, mais il a tout dans sa tête. Donc je crois que le mieux, ça sera que vous posez les questions.
Tout à fait d'accord.
Voilà, et puis qu'on puisse faire une autre causerie. Et d'habitude, nous faisons le petit pot dans la bibliothèque, mais là, pour raisons pratiques, nous le ferons ici. Donc je demanderai aux messieurs, après, une fois que ça sera terminé, de vite m'enlever les chaises et les bancs pour qu'on puisse prendre un pot tous ensemble et continuer l'après-midi. Voilà, je vous laisse la parole.
Merci.
Bon après-midi.
Bon, mesdames, messieurs, non, c'est pas ça. Mes amis, si vous voulez bien, parce que, vous savez, je ne suis là que par amitié, c'est parce que des gens ont insisté. Ils ont tort, d'ailleurs. Parce que j'ai plus l'habitude maintenant, depuis longtemps, de parler en public. Alors je vais essayer, je ferai de mon mieux. Je vous recommande simplement ce panneau qu'il y avait dans les saloons, vous savez, du Far West. Ne tirez pas sur le pianiste, il fait ce qu'il peut. Comme a dit madame tout à l'heure, simplement, vous aurez des questions peut-être à vous poser, peut-être à me poser. Dans ce cas-là, attendez tranquillement que j'ai fini. Sinon, si vous interrompez le cours de mes réflexions, je n'arriverai pas jusqu'au bout. Allez-y, madame, je vous en prie. Je voudrais commencer par, bien entendu, par Cap-de-Nac, après tout. C'est Cap-de-Nac qui est le sujet de notre réflexion. C'est un lieu absolument étrange et fascinant, parce que vous pouvez imaginer Figeac bâti n'importe où. Bâtissez son église, bâtissez ses palais médiévaux, bâtissez-les n'importe où. À droite, à gauche, un peu plus haut, de l'autre côté, ça sera parfait. Mais essayez donc de bâtir Cap-de-Nac ailleurs qu'à Cap-de-Nac. Que vous bâtissiez avec des huttes de paille ou bien avec des maisons de tuiles ou de briques ou de pierres, vous n'aurez pas d'autre endroit. C'est ça ce qui est fascinant tellement. C'est parce que ça n'est pas seulement un lieu, c'est quand même un site de refuge, de repli. Et je commencerai d'ailleurs par quelques termes assez curieux. Je commencerai par le roi David. Le roi David, il écrivait il y a 3000 ans, on lui doit des psaumes, vous savez, les fameux psaumes de David, et parmi les premiers poèmes de l'Antiquité, et que dit-il? Dans beaucoup de psaumes, dans le psaume 18, mais dans le psaume 30, dans d'autres encore, il attribue mon rocher, mon refuge, ma citadelle. Pour lui, c'est Yahvé, oui, mais c'est aussi la colline de Sion. C'est vous dire quand même l'intérêt qui s'attache à ce lieu-là, à ce lieu où on se trouve à l'abri, et on se trouve peut-être... Là, ici, ce n'est pas très sensible, il n'y a pas lieu de pèlerinage. Mais c'est un lieu quand même où on se trouve, le roi David s'y trouve plus près de Dieu. Et c'est à peu près ça, ce qu'on peut penser pour un lieu comme le nôtre. De la même époque, après, à peu près que David, c'est-à-dire longtemps avant les Gaulois, croyez-moi, il n'y a pas que des Gaulois ici. Longtemps avant David, on trouve des gens qui ont vécu ici. J'ai retrouvé des petits bouts de poterie minuscules, mais qui prouvaient qu'il y a des gens. Évidemment, si la statue était authentique, ce serait aussi quand même un lieu encore plus anciennement habité. Bon, enfin, ça, c'est un autre problème, n'est-ce pas? Mais on en arrive quand même... Bon, c'est une période sur laquelle je ne dirai rien, cette période avant les Gaulois. Qu'en savons-nous? Rien du tout. Simplement, nous savons que quand les Gaulois sont arrivés, ils ont bâti ce qu'ils appellent un oppidum. Bâti, non. Ils ont occupé ce lieu comme oppidum. Que ça ait été oxydonum ou non, ça, ce n'est pas mon projet. Et je tenais d'ailleurs à le dire dès l'entrée, d'autres que moi, plus compétents que moi, s'en chargeront et diront c'est ou ça n'est pas, ils diront ce qu'ils en pensent et tout cela. Mais je laisse ce soin à d'autres. Il y a assez d'autres choses dont on peut parler pour ce truc. Je sais que vous attendez toujours un peu que ce soit oxydonum. Je ne vous dirai pas mon opinion, ni tout à l'heure non plus d'ailleurs, mais quand on fera une réunion pour ça, on en verra bien, on verra ensemble. Donc, je laisse le soin à d'autres plus qualifiés. Mais il y a tellement de périodes suivantes qui sont intéressantes. D'abord, le Moyen-Âge. Bien sûr, nous sommes un lieu fortifié par la nature. Puissamment fortifié par la nature, c'est vrai. Mais il y a quand même un isthme. Il faut le défendre. Donc, il faut des murs. Avant les Gaulois, il y en avait-il? Je ne sais pas. Les Gaulois ont certainement bâti quelque chose. Le fameux Murus Gallicus, dont on trouve des traces encore dans le Lot Corse, comme je ne sais plus le nom. On en trouve encore des traces assez nombreuses, faites de pierres et de poutres, on a peut-être dû exister. Les murailles que nous avons sont du Moyen-Âge. C'est vite dit le Moyen-Âge, vous savez, parce que le Moyen-Âge, il a duré quand même pas mal de temps. Et puis, une partie... Si, les portes sont du Moyen-Âge, la salle dans laquelle on est du Moyen-Âge, la porte à laquelle on aboutit est du Moyen-Âge, tout ça, c'est du Moyen-Âge. La grande tour, le donjon, est du Moyen-Âge aussi. Peut-être est-ce qu'elle avait, je pense même qu'elle avait de façon à peu près certaine, une porte au premier étage, comme ça se fait à Cardeillac et dans d'autres lieux aussi. Notre système ici est un système défensif assez simple. On faisait la porte d'entrée simplement à 3 mètres ou 4 mètres de hauteur. Quand on a tiré l'échelle, on est tranquille, n'est-ce pas? Alors tout ça, c'est du Moyen-Âge. Il y a aussi du 17e. Vos murailles ne sont, vous savez, Sully ou son fils, ils ont travaillé ici quand même, et ils ont fait de ce lieu un lieu de défense pour les protestants. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Mais il y a, par conséquent, il y a toute une époque du 17e aussi. Méfiez-vous, dire des murailles du Moyen-Âge, ça n'est pas tout à fait exact. C'est simplement vrai en partie. Et puis, il y a aussi du plus ancien, je pense. Il y a un certain nombre d'années de ça, je ne sais pas, peut-être une trentaine d'années. À droite, quand on regardait de l'extérieur le donjon était à gauche, à droite, il y avait une partie de ce qu'on appelle en jargon d'architecte de l'opus spicatum. Bon, je vais expliquer ce que c'est quand même. Vous savez que les pierres, normalement, quand on les étale, ici par exemple derrière moi, sont étalées à l'horizontale les unes au-dessus des autres, n'est-ce pas? Bon, mais imaginez qu'au lieu de les mettre à l'horizontale, on les mette à 45 degrés. À 45 degrés dans un sens et au-dessus à 45 degrés dans l'autre. Ça vous forme une sorte d'épi dans le mur, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'opus spicatum. Il y en avait un morceau assez important à droite du donjon. Or, ce genre de fortification, on pense de façon à peu près certaine, qu'il date à peu près de l'époque visigothique, voyez-vous, au moins de l'époque pré-romane. Existe-t-il encore? Je n'en sais rien, vous pensez bien que je ne peux pas me déplacer pour y aller voir. Vous pourrez toujours essayer d'aller voir. Je crois qu'il y avait un éboulement qui nous l'avait détruit. C'est dommage, c'était un exemple tout à fait rare depuis ce spicatum à une forteresse. C'est comme ça. Mais cette recherche de sécurité, on est bien, parce qu'on est à l'intérieur, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne peut pas servir aussi à des usages qui soient moins honnêtes? Et on trouve ainsi le passage, en 1200 et quelques, d'une troupe de brigands. Évidemment, ils étaient bien, ils étaient à l'abri. Et de là, ils pouvaient aller épiller autant qu'ils le voulaient. Et puis là, il passait par là un homme dont vous connaissez le nom, Simon de Montfort. Simon de Montfort, c'est le grand pourfendeur des Albigeois, des Cathares, si vous voulez. Il a, il est venu dans la région, oh, il n'a pas brûlé grand monde, il n'a pas trouvé grand monde à brûler, je crois, là, c'était extraordinaire. Parce qu'autrement, c'était sa spécialité, n'est-ce pas? Mais il nous a rendu un grand service, il nous a débarrassé des brigands qui infestaient Cap de Nacre. Voilà, c'est extrêmement simple, n'est-ce pas? Sa troupe était suffisamment forte pour que ça ne risque rien. C'est, si vous voulez, le premier usage que je fais de ce lieu de refuge, de ce fait qu'on se trouve là dans un lieu où, enfin, une fois qu'on a refermé les portes, on se trouve bien. N'est-ce pas ça le refuge? Et n'est-ce pas ça ce qu'on recherche encore actuellement? Un refuge aussi, c'est le refuge des hôpitaux. Ici, je sais qu'il y avait un hôpital, et il était tenu par les géré par les consuls, et tenu par des donats, des dames. Je pense que c'était des dames religieuses, je suppose. Mais je ne sais pas où il était. Vous savez, même à Figeac, je ne vous dirai pas où était l'hôpital, les hôpitaux, sauf celui que nous avons, qui date quand même du 13e, c'est pas mal. Mais là, il y en avait un à Cap de Nacre aussi, sans doute auprès de l'église, peut-être, et on ne peut pas savoir. Donc, tenu par des femmes. Alors, je précise ce que c'est qu'un hôpital. Vous allez dire, un hôpital, on sait ce que c'est, on y va parce qu'on est malade, parce qu'on va se faire opérer. Ce n'est pas tout à fait exact au Moyen-Âge. Un hôpital, c'est un lieu où on se réfugie parce qu'on vient de marcher pendant longtemps, qu'on est un pèlerin, qu'on a les pieds malades, on va rester 2 ou 3 jours ici, puis on repartira. Peut-être parce qu'on est vieux et on fera le jardin en même temps. Et puis, peut-être aussi parce qu'on est malade, n'est-ce pas? Mais ça n'est pas ça la nécessité première de l'hôpital. L'hôpital, c'est un lieu de refuge. Et ce lieu de refuge ici, eh bien, il nous a laissé des traces. Si vous vous souvenez, il y a quelques années, on a voulu aplanir la place, qui est le parking actuel, n'est-ce pas? Je rêve dit, c'est un cimetière. Ah, ben bien sûr. Ça, ils ont trouvé tout de suite des tombes. Ils ont trouvé quelques traces de fortifications et des tombes assez multiples. Et dans ces tombes, savez-vous ce qu'ils ont trouvé? 2 sportelles de Rocamadour. Des sportelles, ce sont des médailles qui étaient spécialement rocamadouriennes, dans lesquelles, alors qu'on affichait, nous-mêmes, on avait peut-être une sur son chapeau, je ne sais pas. Mais sur le chapeau, soit sur le vêtement, on affichait ça. 2 sportelles, donc des pèlerins qui sont morts. À présent, vous me direz, ceux-là, peut-être, est-ce que c'était des gens de Figeac qui étaient allés à Rocamadour. De Figeac ou de Cap-Denac qui allaient à Rocamadour. C'est possible, mais je crois volontiers que ce sont des pèlerins. Et ce qu'on a trouvé qui est encore plus étrange, si vous voulez, c'est, non pas plus étrange, mais deux morceaux de coquille Saint, deux ou trois morceaux de coquille Saint-Jacques. Là, c'est net, n'est-ce pas? Et comment on prend la coquille Saint-Jacques que lorsqu'on revient, ça signifie que des pèlerins venant de Saint-Jacques, eh bien, n'ont pas pu aller plus loin, sont morts ici. Voyez-vous, c'est quand même assez. Et c'est tout à fait. Et c'est ça le rôle de l'hôpital, c'est d'accueillir ces gens en dernier secours, là. Donc c'est bien un refuge aussi. Vous savez, Saint-Jacques, c'est que quand on est ici, on a encore 1000 km à faire quand même. Ça constitue une belle distance. Et à pied, bien sûr. Un bourdon, vous savez ce que c'est un bourdon? C'est le bâton. C'est un mulet. Mais c'était leur mulet à eux, voyez-vous. Ils n'en avaient pas d'autres. Et les chaussures, elles ne valaient peut-être pas celles de maintenant. Donc il y en a qui ont laissé leur peau ici, après avoir fait tout le trajet. Allez, d'où venait-il? Je ne sais pas. On en voit encore passer, mais rarement vous en voyez mourir à Rocamadour, quand même, ça c'est vrai. Un autre lieu de refuge, qui est du même ordre, d'ailleurs de l'ordre de la santé, il y avait une maladrerie. Maladrerie, c'est une léproserie. Bien entendu, elle n'est pas dans Cap-Denac, c'est une évidence même, n'est-ce pas? Elle est sans doute dans un lieu ailleurs, avec une fontaine si c'est possible. On aime bien qu'il y ait une fontaine. Que ça ne soit pas trop loin non plus d'un lieu habité pour qu'on leur porte quelques nourritures, mais que ça ne soit pas trop près, et qu'ils portent une sonnette et des vêtements qui les fassent reconnaître. Mais d'ailleurs, une maladrerie aussi, je ne sais pas où, bien entendu. Si un jour vous découvrez un lieu dans ce coin-là qui s'appelle, qui porte un nom de Lazare, de lépreux, de malade, ça pourrait être ça, mais je ne sais pas. Voilà, si vous voulez, cette fonction-là, de refuge pour des malades, des pèlerins, des gens de partout qui viennent être ici pour se tenir quelque temps à l'abri. Un autre lieu de refuge plus curieux, tout près d'ici, d'ailleurs dans le jardin de M. Boux, ici, au bout, il y avait une tour qui s'appelait la tour Scrignol. Elle a été démolie, on dit démolie, je pense qu'elle a dû s'écrouler, au 18e. Intéressant. Parce qu'elle était un coffre-fort, si vous voulez, pour l'abbaye. Comme le nom semblait curieux, Scrignol, je pense que ça vient de scribérer en réalité, c'est-à-dire d'écrire, c'est-à-dire qu'on y attachait, on y mettait les archives à l'intérieur. Je n'ai pas certitude, vous savez, ça je vous le dis tout de suite, mais il y a des chances que ce soit ça. En tout cas, on a trouvé au pied de cette tour, enfin à l'endroit à peu près où vous pouvez trouver cette tour, une bulle du pape Jean-Marie, une bulle en plomb, c'est-à-dire un sceau en plomb, du pape Jean XXII. Donc c'est bien là. Il y avait là les archives. Ben, elles sont disparues en grande partie, bien sûr. Plus certainement quelques objets sacrés. Mais alors, le mieux, c'est qu'on en a fait, vous le savez, un vieux guerrier visigothique. Ça, je crois que c'est une musette assez drôle. Il n'a jamais été un vieux guerrier visigothique, mais sans doute une tour coffre-fort. Donc ce sera un lieu de refuge plus curieux. Mais ça prouve une chose que nous allons retrouver bientôt. C'est que les Figeacois trouvaient que leur refuge, leur meilleur refuge, c'était encore de venir ici. Bien entendu, on a des murailles, nous aussi, n'est-ce pas? On a, je ne sais pas, combien, 1500 mètres de murailles, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, qui sont solides, qu'on a restaurées à de nombreuses reprises, avec souvent des parties de monuments venus d'ailleurs. Mais on était quand même plus sûr d'être ici. Et j'en viens alors à ce moment-là, on arrive à la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans, tout le monde connaît la guerre de Cent Ans. Des luttes entre les Français et les Anglais. Et on sait aussi que le 14 octobre 1372, je suis forcé de lire parce que je ne m'en souviendrai pas sans soi, le 14 octobre 1372, les Anglais prirent la ville. Tu parles. Savez-vous comment ils s'appelaient ces Anglais, ou du moins leur chef? Bertuca d'Albret et Bernard de la Salle. Vous trouvez que ça fait très anglais, ça, hein? Ce sont des Gascons, c'est-à-dire des gens de la région bordelaise. J'espère que je ne choque pas les Bordelais. Mais ce sont des Gascons qui ont tenu le rôle de soldats, de mercenaires, dans toutes les guerres que l'Angleterre nous a faites. Parce que, essayez. Alors, je peux vous raconter une petite anecdote à ce moment-là. Un des grands chefs de guerre des Anglais s'appelait Chandos. Oh, c'est un grand monsieur. Il a été un tiré Jacques du château. Il y a son tombeau qui est là, aux bordures de la Vienne. D'accord, très bien. Un jour, j'étais là, et passe deux Anglais qui me disent, vous voyez, c'était un grand seigneur anglais, un grand capitaine anglais. Je leur dis, prononcez ça à l'anglaise. Alors, il a ri comme un bossu, bien entendu, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Parce que c'est pas possible de C-H-A-N-D-O-S, c'est vraiment pas très anglais. Et sa femme qui est allée, dit, pourquoi ris-tu? Elle n'a pas compris. Elle lui a expliqué que, bon, ce sont des Gascons, et non pas des Anglais. Bon, ça, ils ont pris la ville, d'accord. Mais c'était non pas des Anglais, ni des soldats, mais des brigands. Et pour en partir, à peu près une année après, ils ont exigé une énorme rançon, 120 000 francs, ça s'appelait déjà les francs à cette époque-là, or, c'est une énorme somme. Et il a donc fallu que ce traité, oui, soit signé quand même par, par des bourgeois de la ville. Et c'est où ils sont allés chercher les bourgeois? Mais ils étaient à Cap-de-Nac, bien sûr. Ils étaient à l'abri dans les murailles de Cap-de-Nac, à l'intérieur des murailles de Cap-de-Nac. Donc, on est venu les trouver ici et leur faire signer la promesse de rançon de 120 000 francs or, qui a été gagée d'ailleurs par les comtes de Rodez, par tout ça, d'accord. Et c'est où ce qui s'est produit après, parce que l'histoire est amusante, elle a continué. C'est que les Figeois ont refusé de payer et que les brigands sont allés en cour de Rome pour réclamer leur dû. C'est joli, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas la suite de l'opération. Ça, je peux pas, je pourrais essayer de la savoir quand même. Mais je ne la sais pas. Mais je la trouve assez drôle comme aventure, celle-ci. C'est parfaitement exact. Ils sont allés, pas à la cour de Rome, c'était à Avignon à ce moment-là. Enfin, c'est la cour du pape, si vous voulez, la cour papale, pour demander leur dû. On n'a pas payé la rançon qu'ils devaient nous payer. À la fois, c'est vrai, ils avaient payé qu'ils devaient cette somme. Mais en bon droit, je ne pense pas qu'ils pouvaient genre, la juger. Et voilà, si vous voulez, cette histoire assez curieuse de la guerre de Cent Ans, et dans laquelle nos bourgeois sont réfugiés ici, nos archives sont réfugiées ici. Vous voyez, cette fonction de refuge que je vous disais, c'est ça, simplement. On pourrait trouver d'autres termes encore, peut-être les protestants, oui, avec Sully et tout ça, nous avons quand même ici une maison Sully. Est-il venu, peut-être? Je ne suis pas sûr qu'il soit venu à Figeac, en tout cas. Je suis en train d'essayer de voir, mais je ne crois pas qu'il soit jamais venu, alors qu'on en parle, et qu'on parle de sa maison, et qu'on parle de tout ça. Peut-être a-t-il vécu, Sophie, ce comte d'Orval, est certainement venu, mais non. Et c'est encore un épisode de siège et de prise de Figeac dont je voudrais vous parler, c'est curieux, n'est-ce pas? Mais vous savez, nos deux villes sont intimement liées. Comment ferait-on autrement? Elles sont... C'est le même site, c'est les mêmes bourgeois, je pense que c'est ce qui est important là. Parce qu'encore une fois, la ville a été prise par des protestants le 23 décembre 1576. Bon, ça ce sont des troupes protestantes qui prennent la ville, curieux d'ailleurs au mois de décembre, parce qu'en principe, en hiver, on ne fait pas la guerre, enfin ça, peut-être c'est ce qu'il a fait quand même. Et Cap-de-Nac, dans tout ça, me direz-vous, qu'est-ce que ça fait Cap-de-Nac? Eh bien, je vais vous citer, je vais le lire d'ailleurs parce que je ne peux pas faire autrement là, un court texte d'un certain chanoine Ducrot, qui est un historien figeacois de la fin du XVIIe. Ah, il est assez curieux, vous verrez d'ailleurs, un langage, on a presque peine à le lire parce qu'il n'est pas très clair. Et il a écrit sur la perte de la ville et sur la suite qui en est attirée. Voilà donc ce qu'il écrit. Pardonnez-moi, là, je suis forcé de lire. Le temple de Pépin. Pépin, le bref, vous le savez, selon la légende, aurait créé l'abbaye. Donc, le temple de Pépin, c'est l'église abbatiale, n'est-ce pas? Déjà, il faut déjà traduire. Le temple de Pépin, donc l'abbatiale de Saint-Sauveur, fut ruiné par les Huguenots. Bon, ça commence bien. Et c'est exact, d'ailleurs, vous savez, ils l'avaient détruit presque totalement. Ils avaient détruit la nef centrale et tout. La ville de Figeac fut mise au pillage et les catholiques furent bannis. Ce qui leur faisait dire, se trouvant sur la rivière Lot, ce que les juifs disaient sur les fleuves de Babylone, alors maintenant il faudrait ouvrir deux points, ce que disaient les juifs, étant assis, c'est les juifs qui parlent là, étant assis, nous, non, là ce sont les Figeacois, étant assis, nous ont-ils dit depuis, en nous racontant leur exil sur les bords de ce fleuve, que nous regardions comme les Juifs celui de Babylone, nous versions des larmes abondantes en nous souvenant de notre Sion, c'est-à-dire de Figeac. Et ceux qui nous regardaient comme des bannis, voyant que nos lyres et nos guitares, je ne savais pas qu'il y avait des guitares au XVIIe, vous vérifierez, tout cas, c'est ce qu'il écrit, que nos lyres et nos guitares reposaient attachées à des branches d'osier nous demandaient des chants. Bon, les bords du Lot. Et alors après, le bon Chanoine recopie dans son entier le psaume 136 qui est commence à être sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis, nous pleurions en nous souvenant de Sion. Aux branches des saules, nous avions suspendu nos harpes et nos vainqueurs nous demandaient des chants. Comment chanterai Jérusalem quand je suis ainsi banni, que même à droite, etc. Bon, d'accord. Ça, c'est différent. Vous le retrouverez d'ailleurs au numéro 136. Ça, c'est différent. Mais alors, qu'est-ce que Cavenac va faire là-dedans, me direz-vous? Eh bien, je sais que Cavenac est occupé par les protestants. Mais il est hors de doute que ce sont des voisins, des amis qui sont là, des cousins qui sont là, voyez-vous. Il est à peu près certain que... Bon, je sais aussi que le fleuve Lot, Cavenac plonge un pied au thym dedans, mais qu'il n'est pas tout à fait dedans, n'est-ce pas? Ça, je suis d'accord. Mais je suis à peu près certain qu'un bon nombre avait dû, une fois de plus, se réfugier ici. Parce que si les protestants qui sont à Figeac, ce sont des soudards, ils ont fait d'ailleurs des dégâts absolument considérables, et ce qu'ils ont fait aux églises et tout ça, ou aux religieux, ça n'est pas très beau à savoir. Je suis à peu près certain que là aussi, je n'en ai pas de preuve, et Chanoine du Cross ne donne aucune preuve, bien sûr, le surlangage de même, mais je suis à peu près certain que, et puis il fallait bien qu'ils surveillent leurs affaires. Ceux qui sont exilés sont les riches. Ce sont ceux qui ont des biens. Il faut bien les surveiller. Or, ils les surveilleront mieux que si on était dans une ville pas très loin. Ce qui fait que je pense que ce fleuve Lot, où voulez-vous qu'il soit? Pas Cabnagar, c'est une évidence, n'est-ce pas? Ça n'existe pas encore à ce moment-là. Donc je pense que vraiment, il doit y avoir encore une fois ici un lieu de refuge. Comment aurions-nous la certitude? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'histoire est amusante, et ces guitares suspendues aux branches des saules du Lot, c'est tout à fait amusant. Voilà, si vous voulez, encore une fois, notre Cabnac, lieu de refuge. Après vient la Révolution. La Révolution, est-ce que des gens sont réfugiés à Cabnac? Je ne crois pas. Des prêtres bannis, ils étaient plus à l'aise dans Figeac, il y en a eu à Figeac, mais non. Non, je ne crois pas. La révolution politique d'abord, et puis la révolution industrielle. Cette révolution industrielle qui fait que on a créé en bas une autre ville, le chemin de fer, l'industrie, tout ça. Mais Cabdenac est resté en dehors de tout ça. C'est une cité refuge, elle est restée pour tous les amoureux d'une vue paisible. Et puis son rocher, sa citadelle, sa forteresse. Regarde toujours de très haut quand même, et de loin, la vaine agitation. Vous ne croyez pas que nous sommes quand même là un peu en dehors de tout? Ne sommes-nous pas en dehors de tout dans cette maison où nous sommes là? Pardonnez-moi d'avoir abusé de votre attention, mais je vous remercie quand même pour ça. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Maintenant, je suis d'accord pour répondre à vos questions, si vous voulez bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser? Marie-Odile a certainement des questions à poser. Oh, pardon. Je suis méchant. Parce que, vous savez, il y a des tas de choses qu'on a oubliées. D'abord, il y en a une, je vous dis, essentielle, mais je n'en parlerai pas. C'est l'histoire... Oui, je sais, vous êtes venu pour ça, mais si vous êtes déçu, tant pis pour moi. Ou tant pis pour moi. Pardon.
Saint-Géraud d'Aurillac a vécu à Cabdenac.
Ah, je ne sais
pas. Que normalement, avant la maison de Sully, c'était un prieuré, et que Saint-Géraud d'Aurillac,
c'est possible.
Quelques années, et, il y aurait, et dans la vie de Saint-Géraud d'Aurillac,
oui,
que j'ai lu dans le détail, on parle aussi de deux miracles qui ont eu lieu dans cette propriété. Et
ah,
il
bon.
Aurait vécu dans les années 900. Et dans le monde du vin, dans l'histoire du vin, il est indiqué que Saint-Géraud d'Aurillac payait son loyer sous forme de barriques de vin. Est-ce que vous avez une explication à ce sujet?
Je sais que toute la colline en dessous de la colline que vous connaissez, la nôtre si vous voulez, orientée plein ouest, j'ai connu encore de vieilles gens qui avaient vendangé. Donc, il y a eu là des vignes abondantes, avec du vin que vous connaissez, bien entendu, puisque c'est le vôtre. Mais pour Saint-Géraud, je vous laisse, je ne sais pas d'ailleurs, il faut faire toujours la légende, la part de la légende dorée. Tous les saints ont leur légende dorée. Alors, c'est possible, mais je ne peux pas le savoir, ça demanderait d'autres études, et je ne vois pas là qui pourrait le dire de façon certaine. Hein, ça, je ne sais pas. Mais c'est toujours possible, voyez-vous.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Parce qu'il est bien certain que j'ai été incomplet. Monsieur le Robois, c'est tout ça à dire. Mais je croyais. Non, il est bien évident qu'on est toujours incomplet, vous savez. J'ai essayé de parler surtout de choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. L'hôpital, vous n'avez pas entendu parler. Et il est important de savoir que ces pèlerins sont morts ici, c'est sûr. Ça prouve quand même un lieu de refuge, c'est vrai. Mais vous savez, si vous saviez le peu de choses qu'on sait en histoire.
Oui, vous avez parlé de maladrerie tout à l'heure.
Oui.
Vous disiez qu'on cherchait une maladrerie dans les environs.
Oui.
Bon. Mais de toute façon, vous savez, une personne qui avait une maladrerie à Villeneuve d'Aveyron...
Mais c'est trop loin. Il y en avait une à Cap-de-Nac. Voyez-vous, c'est tout à fait différent. De la même façon qu'il y avait un hôpital à Cap-de-Nac, des maladreries, il y en avait partout. Mais je sais qu'il y en avait une à Cap-de-Nac. Mais donc dans les parages immédiats, peut-être dans la pente qui est en dessous de nous par là, je ne sais pas, voyez-vous. Mais ne pensez pas à maladreries ailleurs, n'est-ce pas? C'est ici. Je sais qu'il y en avait une qui dépendait des consultes de Cap-de-Nac, comme l'hôpital qui était là, qui est peut-être, alors, où disait monsieur là-bas, ce qu'on a, le lieu où il y avait une chapelle dédiée à Saint-Géraud et tout ça, un prieuré, c'est possible que ce soit là. C'est tout à fait difficile. Vous savez, je vous dis qu'à Figeac-Même, on ne sait même pas où se situe l'hôpital de Saint-Eutrope, qui était tout à côté de l'église du Puy, je ne sais pas où il est. Là, c'est tout. Et ça, on essaie, mais on ne sait pas. Non, la maladrerie, elle est là quelque part, voyez-vous, tout près. Mais en dehors des burettes, c'est une évidence. On n'acceptera pas des lépreux quand même pour de bonnes raisons.
J'ai cru entendre tout à l'heure que vous n'ayez pas parlé de la question du xylodinum.
Ça, je me suis assez bien exprimé là-dessus.
C'est les sujets qui fâchent, c'est ça.
Non, c'est pas ça. C'est qu'il y en a d'autres qui sont plus s'y en débrouilleront beaucoup mieux que moi pour le faire. Non, non, il y a des tas de gens dont c'est, pas le métier, mais de s'en occuper, c'est à eux. Alors c'est à eux de le faire, hein, voyez-vous. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est autre chose. Qu'on soit d'accord pour ça ou non, ça c'est autre chose. Mais c'est à eux d'en parler, c'est à eux de vous dire, je le crois parce que. Et ils le feront avec beaucoup plus de cœur que moi, parce qu'ils sauront ce dont ils parlent, qu'ils ont fait des fouilles et tout ça, hein. Mon opinion à moi, ça non, vous n'avez pas besoin de savoir.
Je vous dis ça parce que si vous avez la curiosité de taper sur votre ordinateur...
Je n'ai pas d'ordinateur.
Ça ne m'étonne pas. Mais si vous tapez par exemple le mot uxolidinum, et vous avez trois ou quatre lignes qui vous racontent que c'était, bien entendu, puis dissolu.
Bien sûr, mais ça je sais bien. Mais vous savez pourquoi Napoléon III le mettait au puits dissolu? Parce qu'il avait une maîtresse dans les environs.
Alors
vous comprenez, c'est pas très sérieux tout ça.
Pourquoi a-t-on choisi? Pourquoi le ministère de la Culture, il y a 3 ou 4 ans, a choisi Napoléon III plutôt que les frères Champollion?
Ah, ça alors. Demandez à ce moment-là, vous savez, je dis, Napoléon III, ce sentiment qu'il l'a fait. Alors.
Pardon, c'est?
Là, au sentiment, puisque c'est parce qu'il y avait une maîtresse dans les environs.
Ah.
Je ne sais pas quel était le nom de la maîtresse, en tout cas je sais. Alors vous comprenez, c'est pas très sérieux tout ça. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette querelle, parce que je ne tiens pas à y entrer. Mais je suis persuadé que Régis Najac ou d'autres pourront vous faire une conférence là-dessus, et le feront très bien. N'est-ce pas ça? Vous avez un Gaulois superbe ici pour le faire, cette conférence. Il n'est pas là ce soir. Mais je n'en dirai pas de mal pour autant. Non, je me suis contenté de tout autre... Et surtout d'un autre, d'abord de vous dire que le lieu de refuge est très antérieur aux Gaulois, ça très antérieur. Les Chassiens, par exemple, ont tué des civilisations ici, et qu'il y a autre chose après aussi, tout le Moyen-Âge et tous les siècles jusqu'à notre époque actuelle. Et encore actuellement, qu'est-ce qu'on vient faire ici, sinon rechercher un peu de calme et tout ça. C'est ce que j'ai fait.
Monsieur, oui? S'il y a des murailles et un apic,
oui?
C'est pas tout autour de Cap-de-Nac. En arrivant par la route de Montredon, par exemple, l'accès devait être beaucoup plus facile.
Mais il y a des murailles.
Oui, mais... Si
mais elles sont des murailles en partie.
Si c'est pas nécessaire d'escalader, ça rend l'attaque beaucoup plus
oui,
facile.
Oui, je suis d'accord. Mais vous avez, sur la seule partie qui soit accessible, vous avez des murailles qui sont détruites en partie, mais on sent que les portes qu'il y avait et tout ça. Double porte d'ailleurs là-bas au côté nord et tout ça. Ici, une porte au côté sud, qui est bien défendu par son accès ici. Voyez-vous, ça...
Oui, mais ça, c'est, ici, c'est très abrupt.
C'est... Exactement. Mais où ça n'est pas abrupt, il y a une vraie muraille.
Il fallait une porte d'entrée pour la nourrir.
Pardon.
Je pense qu'il fallait quand même un endroit pour un accès pour se nourrir et voilà.
Mais,
je pense
mais vous avez les portes. De... Mais les portes apparaissent encore. Et une double porte au côté nord, là-bas, qui apparaît très bien. L'accès qui est actuellement, c'est une route. Mais vous voyez très bien sur la gauche, à moitié détruit d'ailleurs par les éboulements, les portes qu'il y avait là, deux portes successives. D'ailleurs, vous aviez une circulation qui se faisait par là, qui traversait la ville et qui allait vers Figeac. À tel point que je ne sais plus à quel moment, il y a un saint léger ou autre qu'on a transporté par là, et c'était la route elle-même qui traversait là. Donc il fallait bien une porte ici, une porte là-bas, porte sud, porte nord. Elles existent, mais le côté nord était puissamment défendu, puisque vous avez le donjon et vous avez des murailles. Et après seulement au XVIIe qu'on a fait les contre-valations, Valement, qu'il y avait là. Pardonnez-moi, je cherche mes mots de temps en temps.
Deuxièmement, s'il n'est pas certain que Sully est habité ici, d'où vient l'origine du nom?
Ah mais de toute façon, lui ou son fils ont habité ici, ça sans aucun doute. Le comte d'Orval a habité ici très certainement. Je trouve sa trace à Figeac, je ne trouve pas la trace de Sully pour l'instant, c'est tout. Peut-être est-il venu. Non, je disais à quelqu'un tout à l'heure, quand un grand personnage venait, on lui offrait des confitures. Entre autres, n'est-ce pas? Et je trouve la trace des consuls offrant des confitures au fils de Sully, je n'en trouve pas offrant à Sully. Or il aurait obligatoirement eu des confitures. Du vin peut-être aussi quand même. Ce qui fait que il est possible tout ça, vous savez, l'histoire est faite de davantage de points d'interrogation que de réalité, que de certitude.
Est-ce qu'il y aurait une preuve qu'il y aurait des Templiers qui seraient venus ici
ou... Oh alors parlons des Templiers, je veux bien. Les Templiers, il y a une fameuse commanderie à Figeac qui est une fumisterie sans pareil, n'est-ce pas? N'ayons pas peur des mots. Et puisque la maison est postérieure sans doute à l'époque des Templiers, ce qui est quand même assez curieux, et il est certain qu'il y ait eu des maisons ayant appartenu aux Templiers à Figeac. Ça, je suis formel pour ça. Des maisons ayant appartenu aux Templiers, mais pas de commanderie, n'est-ce pas? Pas de Templiers à proprement parler, des maisons appartenant aux Templiers. Alors ici, il est possible qu'il y ait eu des maisons appartenant, ils étaient très riches, donc ils avaient des maisons un peu partout, voyez-vous. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y avait des Templiers avec la croix rouge sur le ventre et tout ça. C'est tout à fait différent. Et ça, je crois qu'on confond largement le fait qu'il y a des maisons appartenant aux Templiers et le fait qu'il y avait des Templiers quelque part. Ce sont deux choses distinctes. Non, non. Alors ici, il est possible qu'il y ait eu des maisons ayant appartenu aux Templiers. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais autrement, non, pas de commanderie de Templiers. Une maison qui appartenait aux Templiers à Figeac, du moins c'est la mairie qui le dit au 17e, vous voyez, parce que ça remonte déjà à quelques temps, quand vous passez sous l'arche à côté de la halle, qui est entre la pharmacie et le magasin de chaussures, eh bien, les maisons qu'il y a sur la droite après, avec les trois arcs, qui est le 18e, ça c'est différent, auraient appartenu aux Templiers, disait la mairie au 17e. C'est tout. Aurait appartenu aux Templiers, mais il n'y avait pas de Templiers pour autant. C'est ça, je crois, ce qu'il faut voir. Et ça, les Templiers, c'est une belle histoire aussi.
C'est une triste histoire.
Ah ben, ça a fini mal, ça a fini très mal, ça je reconnais.
D'où vient le venant Cap de Nac, s'il vous plaît.
Ah, ça, si quelqu'un peut me l'indiquer, ça me rendra service. Non, je ne sais pas. Cap de Nac, il y en a certains qui ont fait Cap de Naz, c'est-à-dire qu'on aurait coupé le nez à des gens. Ça me semble un peu curieux comme histoire. Cap de Naro, c'est-à-dire aussi la tête d'un navire. Ça serait plus vraisemblable. Mais ça n'est pas... Non, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire s'il y a vraiment une origine. Vous savez, les noms de lieux ou les noms d'hommes, si vous savez comme c'est difficile de trouver une étymologie. Ou comme on peut les inventer très bien, d'ailleurs. Mais Cap de Naz, nez coupé, je trouve que c'est joli. Or, on sait qu'il a coupé les mains. César a coupé, dans sa grande bonté, est-il ajouté. Il a coupé les mains.
C'est Hirsus.
Pardon.
Hirsus.
Ben, c'est Hirsus qui le dit, oui, je sais bien. Mais enfin, c'est César qui a fait couper les mains. Je sais bien que c'est pas César qui... De toute façon, je vous dis, je n'entre pas dans le sujet d'Hirsus. Je peux vous traduire Hirsus si vous voulez, mais c'est pas ça le sujet. Non, je vous remercie en tout cas d'être venus nombreux, et puis d'avoir posé quelques questions aussi.
Monsieur Foucault,
oui?
Avez-vous une idée personnelle sur la fameuse tatue chassienne, soi-disant qui a été...
Ah non, j'ai pas d'idée personnelle. Non, j'ai pas d'idée personnelle.
C'est une blague ou ce n'est pas une blague?
Ah non, mais j'ai pas d'idée personnelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on voudrait me faire dire? Ça, c'est de la provocation, ça. Je n'entrerai pas là-dedans. Non. Ça me plaît quand même comme question, tu vois. Ah, c'est joli. Oui.
Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de...
Non. Pardon.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tous ces mouvements, tous ces courants qui nous poussent à vouloir des origines partout, sans qu'on reçoive la certification que ce sont des sources certaines, puisqu'on est en plein là-dedans, quoi.
C'est toujours,
c'est partout, quoi.
C'est toujours l'état de rêve dont ont besoin tous les gens.
Ah bon.
On a besoin d'un état de rêve. Au Moyen-Âge, on avait comme ça les légendes dorées, on avait tout ça. Et puis maintenant, on a l'ésotérisme, on a des tas de sectes, etc. C'est du même ordre, tout ça. On a besoin de rêver un peu. Hein? Et rêver sur des origines, et s'imaginer des origines bien lointaine, plus ou moins fictive. Je crois que c'est ça ce qui nous dirige, ce qui nous sous-tend de temps en temps. Et pour les, aussi bien pour les généalogies que pour les histoires, je crois que c'est ça. Hein. Tu crois pas?
Parce que j'ai bien compris, hein, ma leçon. c'est qu'il faut rêver les yeux ouverts et pas trop fermés quand même.
Ah bah oui, sinon, si c'est là, je rêve des yeux fermés pour remonter, j'aurais des problèmes.
Pour pas se faire duper.
Non. Non, la statue, ça pourrait faire l'objet d'un travail à part encore, tu vois. C'est bien, nous sommes bien certains. On pourrait demander à Jean-Claude, comme... Pardon. Ah pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Je crois qu'il me reste à vous remercier. À vous dire que j'ai été très heureux d'être là et que je ne pensais pas pouvoir le faire. Voilà. Bon, d'accord. Tu me dis. Je reste pour l'instant.
Ça va, rester 5 minutes.
Ça va, ça peut m'aider. Ça m'a amusé. Parce que, en réalité, je me suis amusé.
Mais il y avait mon temps.
Il y avait du monde, oui. La statue, tout ça, c'est
maman, je n'y suis pas.
Non, ça fait de la provocation. Je n'y suis pas.